Bien, bonjour à chacun. Bonjour à Tar par webcam interposé. Bonjour aussi à Sirius, à sa famille qui sont là avec nous aujourd'hui. Et mais je vous propose de commencer par prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous l'as révélée. Merci parce qu'on l'a aujourd'hui et qu'on peut en apprendre encore des choses. Merci parce que c'est grâce à elle qu'on peut te comprendre, te connaître. Et Seigneur, aide-nous à en retirer des choses pour nos vies aujourd'hui. Amen. Alors, ce matin, nous continuons notre série au travers des psaumes. Et comme vous le savez certainement, chacun des intervenants est libre de choisir le psaume qu'il souhaite. Et pour ma part, j'essaye toujours de suivre le calendrier proposé par la Fédération protestante. Et donc aujourd'hui, c'est le psaume 19 qui va nous intéresser. La semaine dernière, Luc nous avait adresser un vibrant appel à être le sel de la terre, à être des lumières autour de nous. Enfin, en tout cas, c'est personnellement comme ça que je l'ai perçu. Et même si, à la fin, c'est le Saint-Esprit seul qui convainc chacun de se tourner vers Christ, c'est une réalité, je pense, que notre attitude, nos comportements dans nos circonstances de vie peuvent rendre témoignage à nos proches de qui est Dieu. Et le psaume que nous allons aborder aujourd'hui, il va nous donner, je l'espère, quelques clés, quelques ressources et des encouragements pour être de telle lumière. Alors je vous propose de lire ce psaume, le psaume 19. Au chef des chœurs, cantique de David. Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Un jour en informe un autre, une nuit à l'autre nuit en transmet la connaissance. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours, ni des voix que l'on peut entendre. Cependant, leur voix parvient jusqu'aux confins de la terre, et leur accent dans tout l'univers. Dieu a dressé dans le ciel pour le soleil une tente. Comme un jeune époux qui sort joyeux de sa chambre, comme un champion qui s'avance, ravi de prendre la course, surgit le soleil. Tout à l'Orient, il se lève et son parcours se prolonge jusqu'au seuil de l'horizon. Il n'est rien qui se dérobe à l'ardeur de ses rayons. La loi de Dieu est parfaite, elle nous redonne vie. Toutes ses affirmations sont dignes de confiance. Aux gens sans détour, elle donne la sagesse. Justes sont ses exigences, elles font la joie du cœur. Et ses ordres, si limpides, donnent du discernement. Le respect de l'Éternel est pur, il subsiste à tout jamais. Les décrets de l'Éternel sont vrais. Ils sont parfaitement justes. Ils sont bien plus désirables que beaucoup de lingots d'or, plus savoureux que le miel le plus doux coulant des ruches. Ton serviteur éternel en tire instruction. Il y trouve un grand profit. Qui connaît tous ces faux pas? Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil. Qu'elle n'ait sur moi pas la moindre emprise. Alors je serai intègre, innocent de grandes fautes. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Alors, dans les premiers versets de ce psaume, l'auteur rend compte de la manifestation de la gloire divine au travers de la création. Pour lui, tout ce qui l'entoure rend témoignage de la grandeur et de la puissance de Dieu. Au verset 2, on peut lire « Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux ». L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. La gloire de Dieu se manifeste au travers de l'infini des cieux, au travers de la perfection de la course du soleil dans le ciel. C'est pour l'auteur de ce psaume un témoignage puissant de la réalité d'un créateur. Ce ne sont pas des paroles ou un discours, comme nous le dit le verset 4, qui serait censé convaincre de l'existence d'un créateur, non. Ce sont l'immensité, la complexité de la création qui nous montrent la puissance et la sagesse infinie de Dieu. Pour ma part, lorsqu'il m'arrive parfois d'avoir un moment de doute qui me traverse l'esprit quant à l'existence de Dieu, il me suffit de jeter un coup d'œil autour de moi. Là derrière, la perfection des arbres, leur diversité, la beauté des couleurs, l'infiniment grand, l'infiniment petit, la complexité, l'interdépendance de tout ce qui est autour de nous. Tout cela me redonne en un coup d'œil la certitude qu'il y a un Dieu qui nous dépasse, un Dieu à l'origine de tout cela. Et Dans cette première partie du psaume, on peut également noter deux aspects importants de cette révélation de la gloire de Dieu au travers de la création. Tout d'abord, le psalmiste insiste sur le fait que la création nous parle continuellement. De la même manière que le soleil va d'une extrémité du ciel à l'autre chaque jour, la création peut nous apprendre de Dieu. Et le second point, c'est que la création peut parler à chacun. Elle est visible, audible ou palpable pour chacun de nous. Personne n'est exclu de cette révélation. Dieu veut se faire connaître à chacun. Au verset 4, on peut lire « Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours, ni des voix que l'on peut entendre. Cependant, leur voix parvient à toute la terre et leurs accents aux confins du monde. » La création nous révèle, nous montre combien Dieu est glorieux. Elle nous le montre à nous, mais à chaque être humain, à chacun sur terre. Au travers de ce psaume, nous sommes invités à nous émerveiller encore et toujours de ce qui nous entoure, et surtout de saisir au travers de cette création le Dieu qui l'a créé, ce Dieu qui nous dépasse, ce Dieu infini dans sa sagesse et dans sa puissance. Un point intéressant à remarquer dans ce psaume, c'est que dans cette première partie, Dieu se révèle, enfin dans cette partie qui nous parle de comment Dieu se révèle au travers de la création, c'est le mot El ou Elohim qui est utilisé pour désigner Dieu. Alors que dans la suite, c'est Adonai, que l'on traduit souvent par éternel. Elohim ou El, c'est le nom général de Dieu. Ça désigne le divin de manière générale. Mais Adonai, c'est le Dieu de l'Alliance, plus personnel, celui qui s'est révélé à son peuple. Et ce changement de El à Adonai a son importance, car en effet, les cieux et la création peuvent nous parler de la gloire de Dieu, mais ils vont pas nous parler de sa volonté. Et pourtant, Dieu ne s'est pas contenté de se révéler par la création. Et la deuxième partie de ce psaume nous parle qu'il nous a donné sa loi. On peut lire au verset 8, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle nous donne la vie. » Alors, qu'est-ce que cette loi dont le psalmiste parle? Alors, il s'agit des instructions données par Dieu et retranscrites dans les premiers livres de la Bible. Le terme « loi » nous paraît bien austère. Mais en réalité, c'est plus chaleureux que le code civil. C'est véritablement la révélation par Dieu de la direction qu'il souhaite pour son peuple, pour chacun de nous. Et en lisant cette seconde partie du psaume, on peut voir 5 impacts que cette loi de l'Éternel peut avoir dans nos vies. Alors le premier impact, au verset 8, il est écrit qu'elle nous redonne la vie, ou selon d'autres traductions, qu'elle restaure l'âme. Si vous vous souvenez, c'est la même expression que celle que l'on trouve dans le psaume 23, lorsqu'il nous est dit que le bon berger restaure notre âme. Alors, il y a quelques mois, avec mon épouse, on cherchait à acheter une maison. Et on en a visité pas mal. Certaines étaient bien situées, avaient une belle façade. Mais à l'intérieur, c'était délabré, mal agencé. Il aurait fallu pas mal de travail pour tout remettre en état. Parfois, c'était juste une pièce. Parfois toutes. On sentait que certaines maisons avaient mal vieilli ou juste parfois avaient mal été conçues. Mais pour notre âme, en tout cas pour la mienne, c'est un peu pareil. Nous avons parfois des pièces qui nécessitent un peu plus qu'un rafraîchissement. Il faut une restauration complète. Pour notre âme, pour notre vie, Dieu veut nous restaurer, nous remettre en état. Et la loi nous a été donnée pour cela aussi, pour restaurer notre âme en la méditant. Le second impact de la loi de l'Éternel est qu'elle donne la sagesse. Alors selon les traductions, il est dit « même aux inexpérimentés ». Elle rend sage l'ignorant, encore selon d'autres traductions. La loi de l'Éternel, sa parole, n'est pas réservée à une élite qui, ensuite, seulement serait elle seule capable de la rendre accessible pour chacun de nous. Non, ses principes, ses préceptes sont simples et accessibles pour chacun. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de longues études, nous pouvons simplement l'ouvrir et nous plonger dedans. Elle nous donne la sagesse. Le troisième impact, c'est que la loi de l'Éternel fait la joie du cœur. On peut le lire au verset 9, « Les décrets de l'Éternel sont justes et ils font la joie du cœur. » Lorsque nous sommes attristés, abattus par le monde qui nous entoure, ses injustices, sa dureté, son manque de compassion, nous pouvons aussi trouver dans la loi de l'Éternel une profonde source de joie. Le projet de Dieu pour l'humanité, c'est la réconciliation. Avec lui, entre les hommes. La noirceur qui nous entoure n'est pas éternelle. Et ça, c'est un sujet de réjouissance. Le meilleur est à venir. Le quatrième impact de la loi de l'Éternel, c'est qu'elle nous donne du discernement. On peut le lire dans la deuxième partie du verset 9. Et puis, il est dit qu'elle nous éclaire. Nous pouvons sereinement fonder nos plans sur ce que nous apprend la loi de l'Éternel. Les chemins que Dieu trace sont bons pour nous. Et enfin, le dernier impact de la loi de l'Éternel, c'est qu'on en recueille un grand profit. Comme nous le dit le verset 12. Enfin, plus exactement, il est dit « à lui obéir ». On recueille un grand profit. En fait, cette seconde partie du psaume me rappelle le tout début du livre des psaumes que Yann avait évoqué, les trois premiers versets du psaume 1. C'est un psaume qui nous rappelle qu'il y a deux façons de vivre. Ce sont les versets que mes parents m'avaient écrits dans la première Bible qu'ils m'ont offert enfant, et on va les lire ensuite, mais je me rends compte que bien des années après, la sagesse de ces paroles m'aurait été utile à bien des fois. Mais il n'est jamais trop tard pour les mettre en pratique. On peut le faire à nouveau aujourd'hui. On peut le lire. Psaume 1, à partir du verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit. Lorsqu'en revient la saison, son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. La loi de l'Éternel, c'est par là que Dieu s'est révélé plus particulièrement. Cet enseignement, la parole de Dieu, est utile. Elle est pleine de sagesse, riche en bienfaits, lorsqu'on la met en pratique. Cependant, vous connaissez votre vie mieux que quiconque, et moi je connais la mienne. Ce grand profit dont il est question, parfois on... Il me semble du mal à le percevoir. Et moi, je fais le constat que je suis parfois sourd à ces enseignements. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, Jésus raconte la parabole du semeur. Et dans l'explication qu'il donne ensuite, il relève quatre comportements quant à l'effet de la parole de Dieu dans la vie des hommes. Tout d'abord, il y a ceux qui, à peine ont-ils entendu la parole de Dieu, que Satan vient arracher la parole qui a été semée en eux. Ensuite, il y a ceux qui, après avoir entendu la parole, l'acceptent avec joie, mais ne la laissent pas prendre racine. Ils sont empêchés par les difficultés qui peuvent survenir ou de la persécution. Ensuite, il y a ceux qui l'écoutent, mais ne portent pas du fruit. Ce sont les soucis du monde, les attraits trompeurs des richesses, les passions qui empêchent la parole de devenir fructueuse dans leur vie. Et enfin, il y a ceux qui écoutent la parole de Dieu, la reçoivent et portent du fruit. C'est ce que Dieu veut pour nous. Et pour connaître Dieu et sa volonté pour nous, nous avons un avantage substantiel par rapport à David. Dieu s'est révélé de manière encore plus remarquable, plus compréhensible, plus accessible. Dieu lui-même est venu sur terre. Il s'est fait homme, il a connu nos souffrances, nos désirs, nos luttes, nos fardeaux. Il est venu à la rencontre de chacun des hommes et des femmes de cette terre. Il s'est fait connaître parfaitement. Ne restons pas sourds à Dieu. Plongeons nos regards dans sa parole. Regardons à Christ. Apprenons à connaître Dieu et sa volonté pour nous. Il n'y a pas de fatalité dans nos échecs. Nous sommes le peuple de Dieu. Et il nous l'est dit dans ce psaume, sa parole est utile même pour des gens inexpérimentés comme nous. Nous pouvons avoir confiance que Dieu sait ce dont nous avons besoin pour avancer. Sa parole nous redonne vie. Et il n'y a pas non plus de fatalisme de la part de Dieu. Ce n'est pas parce que dans son histoire, le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu que Dieu en retour l'a abandonné. Dans l'Ancien Testament, Dieu passe son temps à garder espoir en son peuple, à le reprendre, à le corriger, à l'aider à avancer. Et il allait encore plus loin ensuite, en envoyant son fils Jésus, afin de se révéler pleinement à l'humanité entière. et pour nous offrir le pardon des péchés à chacun. Alors, pour en revenir à notre psaume, souvent on s'arrête à ces deux aspects principaux. D'un côté, la révélation générale de Dieu au travers de la création, et puis ensuite la révélation plus particulière au travers de la loi. Et en effet, il est bon de se souvenir cela, qu'il y a un artiste parfait, un auteur au monde qui nous entoure. C'est Dieu, le Créateur, et les cieux rayonnent de sa gloire. Il est bon aussi de se rappeler que nous ne sommes pas non plus les maîtres pour décider ce qui est juste ou bon. Dieu a voulu nous révéler ses intentions pour nous, ses instructions, et il l'a fait au travers de la loi transmise au peuple juif. C'est Dieu seul qui définit ce qui est juste et bon, pas nous. Et puis ensuite, il s'est révélé parfaitement au travers de la venue de son Fils. Mais il y a une troisième partie dans ce psaume. Et il se termine en effet par une prière. À partir du verset 13, « Qui peut discerner tous ces faux pas ? Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil, qu'elle n'ait sur moi pas la moindre emprise. Alors je serai intègre, innocent de grandes fautes. Veuille agréer mes paroles et la méditation de mon cœur, ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. » La prière ici se nourrit de la connaissance de Dieu. C'est parce que Dieu s'est révélé à lui, au travers de la création et de sa loi, que le psalmiste prie ainsi. Et on peut noter trois éléments dans sa prière. Le psalmiste a une telle connaissance de qui est son Dieu et une telle crainte qu'il demande pardon pour les péchés dont lui-même n'a pas conscience. Il a également conscience des dangers de l'orgueil. L'orgueil, c'est le contraire de l'humilité. Et il est important de ne pas la confondre avec la fierté. Nous pouvons par exemple être fiers d'appartenir à Christ, mais cela ne doit pas nous amener à nous considérer supérieurs à d'autres. Sachons reconnaître nos limites. L'humilité consiste à connaître, à reconnaître sa véritable position devant Dieu. Et le troisième point, c'est que le psalmiste désire non seulement être préservé du mal, mais également que ses paroles, ses intentions profondes soient agréables à Dieu. Que dans notre vie aussi, nous ayons ce désir profond de plaire à notre Dieu. Ne nous limitons pas à connaître Dieu, mais approfondissons notre relation avec lui. Que nos prières, comme celles du psalmiste, puissent être reçues favorablement. Et l'auteur conclut en citant quelques noms qu'il donne à Dieu. L'Éternel, mon rocher et mon libérateur. Ces noms ont leur accomplissement parfait en Jésus. C'est lui, notre rocher, notre libérateur. Le rocher, c'est celui sur lequel on peut compter en toutes circonstances, mais particulièrement lors des épreuves ou des moments difficiles. Un rocher, c'est un appui sûr et solide. Et le libérateur, c'est celui qui paye le prix pour faire sortir de l'esclavage ou de prison. Christ nous a rachetés au prix de sa vie. Il a payé pour nous faire sortir de notre esclavage du péché. Alors voilà, ce psaume nous a invités à mieux connaître Dieu, à découvrir ou redécouvrir toujours et encore sa puissance et sa gloire qui se manifeste au travers de sa création. Ce psaume nous a également invités à mieux connaître la volonté de Dieu au travers de la loi, de sa loi, au travers de la révélation parfaite de Dieu en Christ, à connaître ses directions, à les mettre en pratique. C'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et je pense que c'est ainsi que, même si on l'est déjà, et on pourra continuer à l'être, des témoins autour de nous, d'être le sel et la lumière sur cette terre, afin de donner envie à nos proches, à ceux qui nous entourent, de découvrir Dieu. Non par nous-mêmes, mais car Dieu transparaîtra au travers de nous. Amen.